L'Ambersart en ondes, c'est maintenant sur RPL Radio.
Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette deuxième édition de L'Ambersart en ondes. Vous l'attendiez, nous aussi, on est super heureux de vous présenter cette nouvelle émission. À mes côtés comme d'habitude, mais cette fois il est aussi à la régie, c'est Victor. Salut Victor.
Salut, salut à toutes et à tous, super heureux de vous retrouver pour cette émission du mois de décembre.
Ouais, on a bien préparé cette émission sur un thème global autour des solidarités, ça rappelle les fins d'année, c'est plutôt sympa. Donc on est super content de faire ça et commençons tout de suite, c'est parti pour le sommaire. Du coup, on va commencer notre émission avec un petit flash info, une nouvelle chronique. On va revenir un peu sur les infos qu'il ne fallait pas louper pendant ce mois de novembre à L'Ambersart.
Et la deuxième chronique sera consacrée au patrimoine de L'Ambersart. Vous l'aviez découverte le mois dernier, cette chronique, et donc elle fait son retour.
Ensuite, on partira en reportage dans la plantation participative qui a eu lieu au parc du Castel Saint-Gérard. J'y suis allée pour vous et on vous montrera tout ça.
Et ensuite, on retournera dans la rue pour vous adresser une question. La question est simple. Qu'est-ce qui vous plaît à L'Ambersart? Quel est votre endroit préféré? C'est la parole au L'Ambersartois.
Un peu de bonne humeur et ensuite on reviendra sur du sérieux, mais de l'important. On parlera du budget participatif qui se tient jusqu'au 17 décembre.
Il sera aussi question de la découverte d'une enseigne dans cette émission de décembre. On vous emmène à la découverte autour des cuvées. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve? On vous donnera les indices.
Ça fait un peu de suspense et on partira ensuite au cœur d'une collecte pour la banque alimentaire de L'Ambersart.
Et enfin, on terminera avec l'agenda du mois, toutes les adresses à retenir pour ce mois de décembre.
RPL Radio.
On attaque tout de suite l'émission par un petit flash info. On a recueilli pour vous ce qu'il faut retenir des dernières infos de la ville. Accrochez-vous, c'est parti.
L'essentiel de l'info sur RPL Radio.
Les enfants ne recevront pas de coquilles de Noël cette année. C'est une décision prise par la ville de L'Ambersart pour des raisons, je cite, budgétaires. Décision qui a fait bondir de nombreux parents ces derniers jours. Ils ne comprennent pas l'arrêt de cette tradition. De son côté, la ville assure à la Voix du Nord ne pas avoir d'autre choix que de sacrifier cette distribution. Elle indique avoir subi entre autres la hausse du prix de l'énergie et devoir mettre en place des restrictions. Elle préfère en outre maintenir à la place les renforts d'équipes périscolaires qui auraient aussi un coût.
Une boucherie historique met la clé sous la porte, c'est la boucherie Gauvaer. Elle était située rue Henri Delecot, juste avant la boulangerie Belle, et elle a fermé faute de personnel après 17 ans d'existence. Plus personne ne voulait travailler le week-end, glissent les patrons à la Voix du Nord. Résultat des courses, des revenus en baisse, déjà impactés par la crise sanitaire et les restrictions sécuritaires.
Un nouveau projet immobilier, un de plus, grince les habitants, ceux des Sunes, avenue Lyautey, à l'entrée de L'Ambersart, près du Lille Hockey Club. Le permis de construire d'un immeuble de 39 logements sur 5 étages et 2 parkings souterrains pourrait être déposé au premier trimestre de 2024, selon le promoteur. Les riverains sont au vent debout, ils n'en veulent pas, c'est un véritable bras de fer. Ils l'ont redit lors d'une dernière réunion publique très tendue. Il dénonce entre autres un paquebot et une menace pour la mobilité et la diversité.
Continuons sur les travaux, mais cette fois on parle de pause dans les travaux. La rue Eugène Descamps est fermée à la circulation depuis fin septembre pour des travaux de requalification complète, c'est-à-dire réseau, voirie, trottoir et pistes cyclables. Le chantier devait à l'origine durer 18 mois, mais une pause va avoir lieu jusqu'en juin 2024 et par conséquent la rue sera de nouveau ouverte dans les deux sens.
Et on termine ce flash aux abords des écoles Victor Hugo, Maintenon et Lannoy-Blain qui sont devenus depuis le 4 décembre des espaces sans tabac aux horaires d'entrée et de sortie des écoliers, des espaces de plus qui rejoignent les aires de jeux pour enfants, les parcs et les enceintes des espaces sportifs. C'est une nouvelle étape dans la campagne de lutte contre le tabagisme commencée en octobre 2021.
RPL Radio.
Il est l'heure à présent de plonger à la découverte de notre ville, plus particulièrement de son patrimoine. Pauline, après la visite de la Villa Saint-Charles lors de la dernière mission, où est-ce que tu nous emmènes cette fois-ci?
Alors le mois dernier, comme tu l'as dit, nous nous sommes promenés ensemble avenue de l'Hippodrome, où se succèdent des maisons toutes plus belles les unes que les autres. C'est, comme tu le disais aussi, à la Villa Saint-Charles que nous avions fait une pause et je vous avais promis de vous emmener de l'autre côté de la rue. Alors promesse tenue, nous voici debout devant la Villa Saint-Georges au numéro 218. Plus impressionnante que sa voisine parce que plus massive, cette villa a été construite dans quelques années plus tard, en 1897. C'est un architecte lambersartois, soyons fiers, Albert Baer, qui en est à l'origine. Et en 2001, elle a été inscrite comme monument historique. En passant devant, je vous conseille de lever la tête, afin de voir au milieu de sa façade, en briques, la mosaïque qui fait toute sa renommée. C'est une mosaïque Art Nouveau du chevalier Saint-Georges tuant un dragon. Et elle est signée Qualio, désolé pour la prononciation, c'est un célèbre céramiste, dont on peut également observer l'œuvre à la maison Qualio, du même nom, à Lille. Niveau architecture, la villa s'inscrit dans un style mélangeant éclectisme et Art Nouveau. Je pense qu'on est bon pour les mots un peu barbares, maintenant, faut les expliquer. L'éclectisme, c'est le mélange de plusieurs inspirations. En l'occurrence, ici, c'est des inspirations byzantines et régionalistes. C'est ce style assez particulier que l'on retrouve dans la plupart des villas de l'avenue de l'Hippodrome. On en avait un petit peu parlé aussi avec la Villa Saint-Charles la dernière fois. En ce qui concerne l'Art Nouveau, c'est simplement l'idée selon laquelle l'art s'immisce dans toute l'architecture, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des mosaïques sur la façade. Avec tous ces mélanges et ces couleurs, la villa qui est aujourd'hui un lieu d'habitation dénote réellement dans le paysage lambersartois.
Merci beaucoup Pauline pour cette chronique qui donne envie de passer plus de temps à observer les détails de l'architecture lambersartoise. J'ai une question, tu t'en doutes, est-ce qu'on peut avoir un indice sur la prochaine chronique ?
Je ne m'attendais pas du tout à cette question. En vrai, la dernière fois, mon indice, il était plutôt facile. Et donc cette fois, je vais simplement vous dire qu'on va sortir de la nuit de l'hippodrome pour découvrir les secrets du reste de la ville. À vous de laisser parler votre imagination.
C'est bien noté, laissons un petit peu de suspense avant la prochaine émission. Continuons à Lambersart, cette fois-ci dans les parcs et jardins. Il y a quelques semaines, le 25 novembre, a eu lieu au parc du Castel Saint-Girard, dans le quartier du Canon d'Or, une animation organisée dans le but de sensibiliser les habitants aux enjeux écologiques. Pauline, tu t'es rendue sur place, c'est ton reportage.
RPL Radio.
Tu l'as pas eu entièrement ?
Non, mais...
Elle est là, la
racine. Après, je ne veux pas casser l'ustensile.
Elle est là, la racine, là. Ah.
Une pelle à la main, creusant en évitant les racines, les membres des Amis du Castel sont en plein travail.
Je l'aurai.
Le samedi 25 novembre a eu lieu au parc du Castel Saint-Gérard une action de plantation pour remettre un peu de verdure. Ce sont deux associations lambersartoises qui ont pris l'initiative, comme nous l'explique Estelle, salariée de l'association des Ajoncs.
L'événement d'aujourd'hui, cette plantation dans le parc, elle est à l'initiative de la concordance de deux associations. Donc il y a les Amis du parc du Castel Saint-Gérard, qui a vraiment pour objectif d'animer ce parc et que les habitants puissent l'investir. Donc il y a un côté festif. Puis avec le support du Jardin des Quatre Sous, qui est implanté sur le parc, avec donc tous le collectif des habitants jardiniers des Katsu. Et donc ce jardin, c'est un jardin naturel partagé qui fait partie du réseau des jardins animés par les Ajoncs.
L'initiative a obtenu le soutien de la mairie, comme l'affirme Antoine Pierrot, adjoint à la transition écologique, qui s'est rendu sur place.
La ville est aujourd'hui particulièrement heureuse de soutenir ces initiatives de riverains qui se mettent ensemble au nom du lien social et aussi de la biodiversité. Hein, c'est aussi important ces deux choses-là. Et voilà, à notre place, on les accompagne avec la fourniture de végétaux ou de petits matériels pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est l'association qui a dit, voilà, ça fait un an qu'ils réfléchissaient, on aimerait bien planter des choses parce qu'on trouve que ça serait mieux. Et donc on a travaillé ensemble et puis là, ça se concrétise aujourd'hui par la plantation.
Mais l'idée de l'action, c'est aussi de mobiliser les habitants du quartier. Et certains se sont montrés généreux.
Aujourd'hui, il y a des plans, beaucoup de plans qui ont été donnés par la mairie. Et il y a aussi des plans qui ont été donnés par des particuliers. Là, je disais qu'on a planté... Il y a une dame qui est venue avec un framboisier. Elle a séparé ses framboisiers dans son jardin, elle en a apporté un. Une autre a donné un rejet un nouveau plant de noyer qui poussait à l'ombre de son grand noyer. Je dois aller chercher un noisetier chez une autre personne encore.
Au parc du Castel Saint-Gérard, il fallait donc être prêt à retourner la terre, mais pas seulement. Le moment était aussi l'occasion de manger ensemble autour d'un buffet façon auberge espagnole. Et pour un bon repas, rien ne vaut un potager situé juste à côté.
Voilà, les courges qui ont poussé à quelques mètres ont été dégustées ici aujourd'hui pour cette action. Donc il y a vraiment une dimension de solidarité qui se développe autour des jardins et là du parc. Et puis cette ce côté convivial. Et puis, après, il y a des valeurs écologiques. On essaye de développer la biodiversité comme on peut. On évite les intrants chimiques. Voilà, donc on développe des techniques. On s'appuie sur la permaculture. Donc, les courges étaient bio.
Après le repas, il est temps de retourner au travail. Toujours accompagné d'Estelle, sa pelle à la main.
Et ça, c'est des plantes très rustiques qui vont s'étaler et apporter de la verdure au sol.
Okay.
Et on, voilà, là, il y a des oignons. Et donc, il y aura un peu tous les niveaux. C'est ça, la biodiversité. Il faut que tous les étages soient habités pour qu'il y ait un vrai écosystème qui s'installe à tous les niveaux. Sous le sol, au ras du sol, au niveau de nos genoux, au niveau de nos têtes, et puis bien plus haut que nos têtes. Comme ça, c'est varié. Il faut trouver le juste équilibre entre quelque chose qui soit agréable à regarder, propre, suivant nos valeurs contemporaines, et puis aussi quelque chose qui préserve la biodiversité.
Alors, en fin de journée, il est l'heure de faire le bilan. Une petite graine de plantée qui cache de grandes ambitions, selon Marie-Claire, membre des Amis du parc du Castel Saint-Gérard.
Alors, depuis un certain temps, les feuilles étaient soufflées, tout ça, donc la terre, elle ne se régénère pas. Le sol est très tassé, et donc il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien, et l'eau n'est plus absorbée. Et les racines sont de plus en plus à nu. Donc, avec les espaceurs, on a demandé pour avoir à nouveau des feuilles et du broyat et tout pour essayer de protéger un peu les racines. On va mettre des petits arbustes, un peu de bulbes et tout ça pour redonner un peu de couleur. On ne va pas faire des miracles en une fois, hein, mais le tout, c'est au moins d'amorcer, avoir un poumon vert dans un quartier où les gens peuvent se retrouver. Tous les enfants du quartier viennent jouer au bac à sable, même si c'est tout petit, c'est important. Ce qu'on voulait aussi, c'est que les gens prennent conscience, parce que tout le monde vient pour consommer les espaces verts, mais chacun a un rôle à jouer, parce que la nature, c'est notre bien à tous. Donc aujourd'hui, on a semé une petite graine, et puis un peu à la fois,
ouais.
Je pense que si on veut avoir des espaces verts, il ne faut pas tout attendre non plus de la municipalité. Il faut aussi que chacun en prenne soin.
La préservation des espaces verts, c'est évidemment un point central. Et on va en parler un peu ensemble. Avant de commencer ce petit débrief, je tenais juste à rajouter une information. Un des arbres dont il est question dans le reportage, un noyer, a malheureusement été fortement abîmé une semaine après la plantation. Il n'en reste plus grand-chose, et c'est un geste malheureux qui a beaucoup fait réagir au moment où une photo a été postée sur le groupe Nous sommes Lambert Sartois, annonçant le décès de ce noyer, je ne sais pas comment dire ça, mais il n'est plus en forme. Mais donc, un geste malheureux, c'est certain, mais je trouve que ça n'enlève rien à l'ambition de l'action et à toutes les problématiques qu'elle soulève. Du coup, je vous propose d'élargir un peu notre sujet. Victor, est-ce que tu as une idée de ce qui est mis en place dans la ville au niveau de la transition écologique ?
Alors là, tu me prends un peu de court, je ne sais pas du tout, mais je suppose que comme cette initiative est fortement soutenue par la mairie, ça doit avoir un lien avec leur projet.
C'est très bien observé, c'est en effet le cas. En fait, en discutant avec Antoine Pierrot, qui est, je le rappelle, l'adjoint à la transition écologique à la mairie, il m'a expliqué que le principal objectif, c'était la création d'îlots de fraîcheur dans la ville. L'idée, c'est de créer des lieux plus frais, avec de la végétation, où les habitants pourront venir se réfugier en cas de forte chaleur. En gros, permettre d'avoir de la fraîcheur avec des arbres au lieu des climatiseurs. En fait, l'action a commencé l'été dernier, avec l'inauguration des premiers îlots. Et le but maintenant, c'est de le développer, parce qu'on peut tous être d'accord sur le fait que nos étés ne vont pas se rafraîchir. Et donc, pour en revenir au parc du Castel Saint-Gérard, on reste dans le thème, avec la plantation de nouveaux arbres pour remettre un peu de végétation au cœur de la ville. Mais la mairie est loin d'être le seul acteur.
Et justement, dans le reportage, tu évoques l'association des Ajoncs. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ?
Bien sûr ! Les Ajoncs, c'est les amis des jardins ouverts et néanmoins clôturés. Pour reprendre un peu l'acronyme, Estelle, celle qui intervient dans le reportage, elle y est salariée. Et ils animent un réseau de 4 jardins naturels partagés, c'est-à-dire des jardins participatifs, à Lambersart, à l'image de celui du Castel Saint-Gérard. Il se trouve à Canteleu, à Braille et juste à côté de nos studios, dans le quartier Paco. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui est le plus ancien du réseau. Et vous ne le voyez pas, chers auditeurs, nous non plus, parce que les rideaux sont fermés, mais en théorie, depuis le studio, nous avons une très belle vue sur ce fameux jardin. Et malgré tout, Je dois l'admettre, je ne connaissais pas trop leur existence, je ne savais pas toutes les possibilités qu'ils recelaient en tant que jardin partagé. Avant de faire ce reportage, et je pense qu'il pourrait être intéressant de partir à leur découverte dans les prochaines émissions, donc affaire à suivre.
Ouais, carrément affaire à suivre, comme tu dis. Bon, chers auditeurs, il est l'heure de notre première pause musicale sur RPL Radio. On part ensemble à la découverte de Celui qui part, de Joseph Kamel.
Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent, je serai un peu là en même temps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux. Et moi je serai là si la vie t'emporte, si ton cœur a froid. Si jamais tu cherches un endroit, je le garderai là pour toi. Je serai partout où tu veux,
je serai partout où tu veux.
Si tu veux bien de moi,
si tu veux bien de moi.
Et si t'as trouvé mieux,
et si t'as trouvé mieux,
je veux le voir avec toi. Qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir.
Vous venez d'écouter Celui qui part de Joseph Kamel sur RPL Radio, musique que je viens de découvrir la semaine dernière, Pauline. C'est un petit coup de cœur, je dois vous l'avouer.
Franchement, je ne la connaissais pas non plus, elle est très sympa.
Elle est sortie en juin dernier et elle totalise bientôt 10 millions de lectures sur Spotify. Ça fait vraiment du bien d'entendre ce genre de musique française prometteuse et entraînante. Joseph Kamel incarne une nouvelle variété à texte qui touche à peu près toutes les générations, jeunes plus, comme plus anciens. C'est vraiment hyper intéressant. On passe à présent à notre troisième format. Vous l'avez découvert le mois dernier, c'est la parole au Lambert Sartois. Vous allez voir, on l'a quelque peu modifié, mais le principe reste le même.
La parole au Lambert Sartois, c'est maintenant sur RPL.
On a décidé de regrouper toutes vos réponses au sein d'un même son pour ce mois-ci. Ça s'y prêtait plutôt bien avec les questions que nous vous avons posées. La première, pourquoi habitez-vous à Lambersart ? On vous écoute.
Alors, qu'est-ce que je préfère à Lambersart ? Bah, c'est ici, le bois de Boulogne. J'adore. Je m'y promène tous les jours. Et la proximité, pourquoi Lambersart ? La proximité des écoles. Enfin, moi, j'habite dans un quartier où j'ai tout. Le lycée, le collège et la maternelle. Et la proximité de Lille.
Déjà, sa proximité par rapport à Lille. C'est vrai qu'on est à la fois au calme et en même temps, on a vite accès au centre-ville. Et c'est un coin que je ne connaissais pas tellement il y a encore un an. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour les enfants, pour les jeunes. Donc voilà, c'est à la fois familial, calme et en même temps, ça reste citadin.
Je trouve que c'est relativement vivant. Il y a pas mal de petits commerces à droite à gauche.
Le jardin et de quoi garer mes voitures. Et puis le jardin qu'il y a derrière. Alors, ce qui me plaît beaucoup, bah, c'est la proximité du bois. C'est, ça fait petite ville, quasi comme si on était des Lillois, mais tout en étant un peu moins oppressé par le bruit, par exemple. Ça fait petite vie de quartier, un peu, avec les petits commerces de proximité, avec les gens qu'on croise dans la rue. Les enfants, ils sont allés à l'école, les copains habitaient le quartier, oui, c'est ça. Ça fait petite ville à côté d'une grande ville.
Ça fait 16 ans qu'on vit à Lambersart. On est arrivé avec notre fils en bas âge, il avait 6 mois à l'époque. Et en fait, moi, je pense, ce qui me plaît le plus à Lambersart, c'est qu'on on fait tout à pied. On a les avantages de la ville sans les inconvénients. Et on est très bien desservi par les transports en commun. Et en 2-3 mouvements, on est dans le vieux Lille ou dans le centre de Lille.
C'est une ville qui est plutôt verte, avec, comme je fais beaucoup de vélos, il y a de la place partout pour les vélos. Ensuite, c'est un quartier où on peut avoir des maisons, ce qui est différent de Lille, où c'est vraiment des appartements et il y a peu de place.
Ce que j'aime, c'est la proximité du bois, la proximité de Lille, la proximité des transports en commun.
Pour la qualité de vie, la tranquillité, la proximité aux espaces verts, leur équipement pour enfants, familles, les écoles.
La nature, enfin les arbres, tout ça c'est très vert et c'est très beau.
Une ville verte, bien desservie, agréable à vivre et proche de tout, peut-on seulement rêver mieux ? Blague à part, ça fait plaisir pour cette fin d'année avec l'approche des fêtes de voir que beaucoup se sentent bien dans la ville. Mais cependant, je ne sais pas pour toi Victor, mais moi j'ai encore une question qui me trotte en tête. En fait, je suis nouvelle dans le paysage Lambersartois, et peut-être toi aussi.
Je connais, mais j'y habite pas, donc...
Voilà, et donc, on a un gros problème, c'est qu'on connaît pas beaucoup, pour ne pas dire aucune, adresse immanquable. Les inratables de Lambersart, où sont-ils ? Mais heureusement, vous êtes là, et vous allez peut-être pouvoir apprendre de nouvelles choses aussi, chers auditeurs. Prenez des notes, car nous vous avons demandé quelles sont vos adresses et lieux préférés à Lambersart. Les voici.
Alors, l'endroit que je préfère, c'est le Canon d'Or, parce que c'est là que je vis.
Ah, moi, c'est le parc des Charmettes. Je sais pas, j'ai un petit coup de cœur là-dessus.
C'est le bois, hein, principalement, pour me promener. Après, les quartiers sont sympas aussi. Hein.
Le bois de Boulogne. Mon chien, il est parti se promener avec ma femme.
La plaine du Colisée, avec le Colisée, qui, je trouve, se passe beaucoup de choses. Plus que dans le centre-bourg, et ça devient une nouvelle localisation en tout cas, où il se passe beaucoup de choses à Lambersart, et c'est assez chouette.
Ouais, les commerçants sont très sympas, hein. Enfin, voilà, il y a la boulangerie Belle, il y a Oscar Traiteur, enfin, les petits commerçants, les restos, ça manque pas non plus, hein. Il y a le resto Coco là, qui est là, enfin, voilà, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas très loin à aller, quoi.
Un lieu préféré ? Oh, Auguste Ferdinand, alors. C'est à côté de chez moi, Auguste Ferdinand, donc je recommande ça, j'y vais tous les jours, donc bon.
Je reviens justement de la Laiterie, qui est un restaurant délicieux que je recommande.
On va souvent au Petit Chef aussi, à Lambersart, donc...
Le restaurant Le Colisée.
En tout cas, merci pour toutes vos recommandations, hâte d'aller tester ça. En attendant, il est temps de bouger un peu, avec une nouvelle musique, on vous l'avait promis. J'espère que vous l'attendez autant que moi, mais c'est l'heure de la musique espagnole. Parce que oui, j'espère vous la faire découvrir, une musique incroyable, entraînante, qui bouge. Tout de suite, c'est Zapatillas de El Canto Loco sur RPL Radio.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, se está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque luego ni entres. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que que me digan si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y ni calaveras. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar, tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni un sitio y no puedo aparcar. Aparcado el coche y ahora busca lo del ticket de la hora. Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo.
C'était El Canto Loco avec son titre Zapatillas sur RPL Radio. Sans rire, c'est une de mes musiques préférées, je dois l'admettre. Elle est incroyable, elle bouge et tout, j'adore. Bon, là en studio, j'étais en train de danser, chanter et tout, c'est trop bien. Elle est incroyable. Si vous voulez chanter à tue-tête, elle est parfaite.
L'histoire de décompresser avant un examen. Ou
Exactement, avant de faire la régie, entre autres.
J'ai pas fait ça ce matin, non.
Enfin bref, il est temps à présent de passer à l'interview. Mais pour ce mois-ci, c'est exceptionnel, c'est nous qui allons nous interviewer. En l'occurrence, je vais se poser quelques questions, Victor, sur un sujet très important et qui concerne tous les habitants de Lambersart. Il s'agit du budget participatif. Et oui, vous en avez sûrement entendu parler, vous avez jusqu'au 17 décembre pour voter parmi plusieurs projets. On va voir un petit peu ce que c'est. Donc, première question toute simple, Victor, qu'est-ce que c'est que le budget participatif ?
Le budget participatif, pour le définir, c'est un outil de participation citoyenne. Permet à tous les citoyens de prendre part aux projets menés par leur municipalité. Chacun, chacune peut jouer un rôle en donnant son point de vue ou en suggérant des idées pour améliorer le quotidien de tous. À Lambersart, c'est la deuxième édition. Les habitants peuvent donc affecter une partie du budget de la ville à des projets d'investissement. Ce budget avoisine les 30 000 euros et une quarantaine de propositions ont été déposées.
Et pour combien de projets retenus au final ?
8 au total. C'est un comité de suivi qui a analysé scrupuleusement les différents dossiers et retenu ceux qui respectaient le plus le cahier des charges. Parce qu'il faut bien avoir en tête que les auteurs devaient indiquer la localisation de leur projet avec un lieu précis pour que ça soit réalisable, ainsi que leurs objectifs. Et les 6 projets récoltant le plus grand nombre de votes seront réalisés. Leurs initiateurs pourront se départager le budget. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Pauline, les votes se tiennent actuellement. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour voter, vous qui avez plus de 13 ans. 13 ans, c'est l'âge minimal, faut le préciser, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Et choisir les 3 projets que vous préférez.
Ouais, c'est clair, c'est cool de pouvoir donner son avis, même quand on est beaucoup plus jeune. Donc n'hésitez pas. Mais avant tout, reprenons un petit peu. Quels sont ces projets ?
On va commencer par le sport. Un particulier propose de faire vivre le badminton en plein air. C'est ce qu'on appelle l'air badminton. Je ne sais pas si tu connais, Pauline.
Alors, je connais le badminton classique dans un gymnase, mais celle-ci, non, pas trop.
Eh bien, cette fois-ci, les règles changent par rapport à ton badminton. Il n'y a pas de ligne centrale qui délimite chaque côté du terrain par deux. Les joueurs jouent avec un volant spécifique pour limiter l'emprise du vent. C'est logique, on est en extérieur. Les dimensions sont précises, tout est encadré, ce n'est pas un sport de plage où les règles se font vraiment n'importe comment. Vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs sur n'importe quelle surface. Bref, une pratique en plein essor. L'auteur du projet souhaite consacrer 1000 euros à la construction du premier terrain d'air badminton de la ville de Lambersart, juste à côté de la guinguette de la plage, sur la plaine du Colisée, où se trouvent des terrains de beach volley notamment. Donc ça serait sympa d'avoir un petit pôle sport. et elle souhaite construire donc le tracé, les poteaux, et charge aux adeptes, aux joueurs, de venir avec leur matériel. Ça serait trop compliqué de fournir du matériel.
Très sympa, ça ferait un nouveau sport qui change un petit peu, mais on passe au deuxième projet.
Et on reste sur un sport de raquette avec là aussi un particulier qui souhaite installer une table de ping-pong au parc des Charmettes, juste à côté de la mairie. Cette table pourra également être utilisée par les PMR, ce sont les personnes dont la mobilité est réduite. Elle coûterait environ 3000 euros et aurait l'avantage de pouvoir rassembler tout type de personnes, plus jeunes, plus âgées et les personnes donc en mobilité réduite. On a ensuite un troisième projet. Il s'agit là aussi d'un projet sportif avec un parcours va-nu-pieds au parc Borloo.
Alors juste, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est qu'un parcours va-nu-pieds ?
C'est un parcours sensoriel pour petits et grands. Vous en avez déjà peut-être fait. Il y en a dans la région. Alors, il y en a un du côté d'Armentières avec un parc au niveau des Prés du M qui a aussi un chemin. Alors, en fait, vous déchaussez et empruntez une vingtaine de pas japonais composés de différents minéraux. Et vous vous reconnectez à la nature, vous vous animez, vous vous amusez. Donc, c'est assez chouette.
Ok, donc l'opération qui coûterait 1500 euros.
Oui, c'est ça.
Beaucoup de sport donc, dans toutes ces propositions, mais il n'y a pas que ça. Je prends le relais. Le quatrième projet, ça concerne les mobilités et plus particulièrement le vélo. C'est un projet présenté par un particulier également qui propose d'installer dans la ville deux stations de gonflage et de réparation de vélos. En parallèle, le projet évoque la mise en place d'ateliers conviviaux pour prendre en main ces outils. Parce que je ne sais pas pour toi, mais n'étant pas une très grande fan de vélo à la base, je ne sais pas comment on fait ça. Donc les ateliers peuvent être sympas. Ça permettrait de profiter tous ensemble d'une sortie à vélo. Le coût de cette installation, c'est 8800 euros sur les 30 000 du budget.
Ouais, surtout que les espaces pour faire du vélo à l'Ambersart ne manquent pas. Donc si on peut avoir une petite place pour changer et se dépanner quand il y a besoin, ça serait forcément utile. Donc c'est un beau projet également, mais ce n'est pas tout. Passons à la cinquième proposition, Pauline.
Restons dans le vivre ensemble après les ateliers conviviaux, si tu le veux bien. C'est avec cette idée qu'ils souhaitent l'installation d'un poulailler collectif sur un terrain peu utilisé situé rue Pierre Corneille. L'idée, c'est de recréer du lien et de dynamiser l'espace en alliant, je cite, l'animation du quartier et le recyclage des déchets alimentaires et la cohésion sociale. Ce seront 4500 euros pour les cocottes du Paco. Je suis lancée et donc j'enchaîne tout de suite sur le sixième projet, qui veut donner naissance à un triangle vert dans le Canon d'Or. L'idée serait de créer un lieu végétalisé et convivial sur le triangle de la place de la République. Au programme, la création d'hôtels à insectes, de nichoirs, de deux tables de pique-nique ou encore l'installation de lieux, comme des poubelles pour la préservation de l'espace. Le budget pour celui-ci est de 6700 euros.
Il en manque encore deux, accrochez-vous, c'est à mon tour. On reste dans les espaces verts avec un projet de création d'un îlot de fraîcheur au chemin noir, vous savez, dans le quartier Vergel. Il mettra à disposition un coin pique-nique, une bibliothèque de rue et des bancs pour s'évader le temps d'un instant au milieu de la végétation. Et ce sera 4600 euros pour ce nouveau cadre de vie. Et enfin, le dernier projet qui s'inscrit aussi dans une ligne de développement durable, il s'agit d'une expérimentation qui vise à éclaircir les toits des bâtiments pour réduire la chaleur. L'idée serait de commencer par le toit d'un établissement accueillant des enfants pour voir les impacts concrets, puis d'étendre progressivement le dispositif si possible. Un premier pas vers la ville de demain, estimé à 10 000 euros, pour être très précis, à 9 900 euros.
Alors ça fait encore des beaux projets dans tous les domaines, notamment l'écologie et le sport, c'est plutôt sympa. Voilà, nous arrivons enfin à la fin de notre liste. Et tous ces projets, c'est important de le préciser, sont à retrouver sur le site de la mairie. Et vous avez jusqu'au dimanche 17 décembre pour choisir vos trois projets préférés, qui feront peut-être partie du coup des six heureux élus. Et ne tardez pas, soyez acteurs de votre ville, parce que les enfants de plus de 13 ans peuvent également voter. Alors, aucune excuse.
RPL Radio.
Vous commencez à avoir l'habitude, chers auditeurs, à force d'écouter votre émission préférée, L'Anversaire en ondes. Il est temps de passer à un tout autre sujet. Partons de nouveau en ville et découvrez un nouveau lieu. Dans l'avenue Hippolyte Pesselin, à l'entrée de L'Anversaire, à proximité immédiate de Bois Blanc. Ça fait plus d'un mois qu'un cavistier a ouvert ses portes. Il se situe à côté de la boulangerie-pâtissier Olivier Vendrome, qui fait l'angle. Victor, tu es allé à sa rencontre et tu es tombé sur de véritables passionnés, un couple qui a décidé de se lancer dans l'aventure des spiritueux.
Romain et Dounia Velay ont décidé de relever un joli challenge. Ouvrir leur propre cave et vendre leurs spiritueux aux Lambersartois et habitants des alentours. Ils ont toujours eu cette envie en eux, mais l'opportunité ne s'était jusqu'ici jamais présentée. Alors quand ils ont vu qu'un local se libérait près de chez eux, ils n'ont pas hésité une seule seconde, explique Romain.
On était en train de regarder une vidéo de dégustation sur les spiritueux et en fait justement l'idée m'est venue et j'ai proposé à mon épouse en disant bah, si tu veux, il y a un local qui s'est libéré, ça peut être justement la bonne occasion. Et puis elle m'a dit bah, on travaille le sujet et pourquoi pas avec grand plaisir.
Romain est alors parvenu à convaincre sa femme Dounia et voilà qu'ils ont créé leur propre enseigne baptisée Autour des Cuvées. L'organisation ne peut pas être plus simple, à chacun sa spécialité.
J'ai ma femme qui, elle, est spécialisée dans la partie des vins. En fait, elle travaillait justement dans ce domaine-là avant. Moi, je travaillais dans le domaine de la bière. Et on a tous les deux la passion pour, du coup, les spiritueux. Donc, en fait, on s'est partagé les tâches. Et pour tout ce qui va être recherche de nouveaux produits, recherche de nouvelles envies, c'est vraiment... J'ai une confiance entière en elle sur la partie vin. Elle a confiance en moi pour la partie bière. Et puis, on travaille à deux pour les spiritueux.
Ces boissons ne sont pas choisies au hasard. Romain explique comment se démarquer à Lambersart. Alors que la ville compte d'autres cavistes qui ont déjà fait leurs preuves, il n'a pas peur de défier une partie des adeptes de la mousse.
En fait, que ce soit bière, vin et spiritueux, on est parti sur finalement une sélection assez, assez restreinte. L'idée, ce n'est pas d'être dans l'opulence, d'être dans la profusion, mais plutôt d'être dans la découverte. Nous, on a pris le parti pris de travailler avec des bières en canettes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les canettes sont quelque chose d'assez décrié, on va dire, pour la population commune, dans le sens où on parle un peu plus de bière geek quand on parle du marché de la canette. Dans le Nord, on a vraiment cette image où la bière doit être finalement dans un contenant en verre, et c'est pas spécialement notre parti pris. On est très, très attaché forcément aux traditions, c'est l'habitude aussi, mais on trouve que justement dans la canette, il y a vraiment un parti pris qui soit aussi bien écologique que visuel que gustatif au final, quoi.
Vendre des bières en canette est un vrai gage écologique à l'heure où les préoccupations environnementales sont toujours plus nombreuses. Une canette est recyclable à 100%, elle est plus facile à ouvrir, se transporte mieux et le goût est pratiquement le même. Pourtant, ce n'est pas l'affaire de tout le monde, c'est un véritable combat à mener. Le couple envisage aussi de faire découvrir des bières de l'international, des vins du monde à ses futurs clients.
On aimerait bien du coup proposer des ateliers dégustation, que ce soit en zytologie, en œnologie ou en mixologie. Et l'idée aussi d'ici quelques années, c'est pouvoir faire un petit peu de dégustation sur place, que les personnes puissent, en fait comme on a repris un ancien bar tabac, finalement on a encore toute l'installation pour les tireuses et tout ça, et l'idée c'est pouvoir aussi faire profiter sans jamais devenir un bar de nuit. On est toujours sur les mêmes horaires, on reste en tête de fermer à 19h, on n'a pas envie de spécialement, on recherche pas forcément travailler plus tard, mais pouvoir justement en fait toujours dans l'idée de découverte, à terme faire découvrir un petit peu sur place certains produits.
Mais avant de mener à bien tous ces projets, Romain et Dounia le savent, ils vont devoir être patients.
Pour l'instant, on est sur une ouverture où finalement on essaye plus de commercer avec les personnes du quartier parce que c'est ce qu'il y a de plus important. On est dans un quartier qui se dynamise vachement avec des personnes qui sont toujours très agréables. Donc on est très très content en tout cas. Nous, c'est un peu comme un rêve qui se réalise. Donc chaque rencontre aujourd'hui et la possibilité de partager un peu nos connaissances et la sélection qu'on a fait des produits.
À eux, maintenant, de faire leurs preuves.
Ça fait du bien d'entendre un passionné parler. Victor, rappelle-nous juste ce qu'il y avait avant son arrivée.
Oui, Romain le dit rapidement dans le reportage, c'était un bar tabac. Il y a eu plusieurs noms qui se sont succédés, dont le Diplomate, mais aussi l'Hippocampe, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Pour rappel, c'est juste à côté du restaurant Le Quai et de la boulangerie Vendrome, non loin de la clinique des bois de Bois-Blanc. Et donc le tabac a fermé à cause d'un dépôt de bilan, et Romain, qui n'est pas lambersartois mais madelinois, il vit à Lambersart, et qu'on vient de le préciser, est tombé par hasard sur l'enseigne. Et donc il n'a pas hésité, faut dire que la configuration de ce tabac était adéquate avec ce qu'il souhaitait mettre en place. Parce que pour m'y être rendu, il a conservé notamment le bar, le comptoir est encore présent, il a gardé des tireuses à bière, donc c'est assez sympa pour ce qu'il souhaite faire avec son épouse.
Ouais, c'est clair, mais par contre, juste en parlant des bières, il fallait qu'on revienne sur un petit point. Je trouve ça sympa la façon qu'il a de défendre sans aucun tabou les bières
ouais,
en canette.
Ouais, c'est un parti pris.
C'est un parti pris, c'est un gros débat, il a beaucoup de monde à convaincre. Mais on sent que c'est complètement assumé de son côté, donc à lui maintenant de convertir avec son épouse les adeptes du verre. Je pense que c'est un sacré challenge et on leur souhaite bon courage. À présent, un petit peu de musique sur RPL Radio. On vous propose d'écouter Vianney et Zazie avec leur morceau « Comment on fait ?»
Danser dans ce drame, le prendre à la légère, comment tu fais toi? De ce vague à l'âme, j'aimerais me défaire, comment tu fais?
C'est qu'une attitude, j'improvise ma foi, rien qu'une habitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dernier mot je l'ai pas, sur la vie au train où elle va.
C'était Vianney en duo avec Zazie, avec leur titre « Comment on fait ?» sur RPL Radio. On s'approche doucement de la fin de cette émission, mais avant ça, il nous reste un dernier reportage. Et c'est encore le tien, Victor.
Eh oui.
Lutter contre la faim par le partage, c'est l'objectif de la Banque Alimentaire chaque année. Elle se mobilise et redistribue les denrées alimentaires non périssables collectées. Et dans les Hauts-de-France, chaque ville joue le jeu, dont l'Ambersart évidemment. Des enfants aux plus grands, tous se mobilisent pour la bonne cause, et Victor, tu as suivi une partie de l'initiative. Tu t'es rendu notamment au collège Dominique Savio, qui participe à la collecte. Tu nous expliques globalement comment ça se passe. C'est parti pour ton reportage.
RPL Radio.
Ici, c'est les cinquièmes. Là-bas, c'est le sixième au réfectoire.
Ah oui, cinquième. Ah bah alors voilà.
Nous sommes vendredi 24 novembre, il est 16h30 et une nouvelle étape de la collecte de la banque alimentaire à l'Ambersart approche. Les parents d'élèves du collège privé Dominique Savio, situé rue du Bourg, sont accueillis, orientés vers leur équipe et reçoivent leur feuille de route. Tous vont avoir à leur côté une dizaine de collégiens volontaires qui vont emprunter un itinéraire bien précis pour aller faire du porte-à-porte. L'objectif ? Récupérer des denrées chez les habitants. Les collégiens n'ont pas le droit de rentrer chez eux. Arlette est responsable de la collecte à l'Ambersart. Elle répond aux dernières interrogations des collégiens.
Arlette,
c'est clair.
Ils peuvent donner des trucs qui sortent du frigo ou c'est pas. Il y a des choses, on n'a pas, non ?
Du surgelé, on ne peut pas prendre. D'accord ?
Une fois briefée, la collecte peut donc commencer. Les enfants se dirigent donc vers les différentes maisons.
Bonjour madame, on est du collège Savio. Est-ce que vous avez quelque chose à donner pour la banque alimentaire ?
Je vais regarder.
Merci.
Certains habitants sont là, d'autres ne le sont pas. les élèves doivent être rentrés à 18h30 au collège. C'est donc un peu la course. Une jeune fille croisée sur le chemin explique pourquoi elle a choisi d'y participer cette année.
Que nous, on peut manger comme ça, alors qu'il y a des pauvres, ils ne peuvent pas manger. Et ils n'ont pas assez d'argent, de moyens pour trouver de la nourriture. Et en les aidant comme ça, bah, ça les aide à survivre et à manger et à vivre.
Les Lambert-Sartois ont été mis au courant dans la semaine. Ils ont reçu dans leur boîte aux lettres des flyers annonçant l'initiative. La logistique est donc parfaitement bien huilée. Le mari d'Arlette, en voiture, suit les jeunes pour stocker les denrées avant leur retour à l'école et les débarrasser. Jean-Christophe Guillard s'occupe de la pastorale à Dominique Savio. Il explique en quoi ce fonctionnement d'aller directement chez les habitants est intéressant. Il est du même avis qu'Alain, dans la même équipe qu'Arlette.
On arrive un mois après, Halloween. Donc c'est une démarche aussi où on ne va pas faire du porte-à-porte pour soi, mais pour les autres. C'est vraiment se mettre au service en fait, de l'opération, plus que de venir avec son sac. C'est un geste de générosité, mais en plus d'aller à la rencontre des habitants de Lambersart, c'est un lien aussi avec le quartier, la ville. Et dans une opération de solidarité d'autant plus.
C'est aussi le contact avec les gens, la sensibilisation. Et puis quelque part, on est aussi dans un bel exercice d'instruction civique et de solidarité pour les enfants. Bon, c'est des jeunes pousses qui demain, peut-être, se diront « bah oui, on va donner parce que on a fait ».
Dans leur sac, les collégiens ont à l'arrivée collecté des boîtes de conserve, des produits d'entretien, des pâtes du riz, bref, tout un ensemble de biens qui ne pourront qu'être utiles à la banque alimentaire, bis et repetita le lendemain matin. Sauf que ce sont les adultes, cette fois, qui s'y collent. Toute la collecte de la ville est à l'arrivée centralisée dans la salle du parc du Castel Saint-Gérard. Sur place, on y retrouve à nouveau la dizaine de bénévoles emmenés par Arlette pour remplir les centaines de cartons distribués. Axel a commencé la banque alimentaire il y a une dizaine d'années. Et pour l'édition 2023, elle ne participe qu'au centre de tri. Elle explique sa mission.
Le centre de tri, on récupère donc l'intégralité des dons qu'on centre ici. Et par la suite, on trie, donc on vérifie les dates de péremption et on remet en carton. Parce que je trouve que c'est important de s'investir déjà pour son prochain. Il y a tellement de personnes aujourd'hui en France qui sont en besoin, qui ont faim, Je pense que c'est important aussi d'apporter, nous en tant que personnes, je ne vais pas dire aisées, mais qui avons à manger à notre faim, de s'investir pour d'autres personnes qui en ont besoin.
Ces bénévoles facilitent donc la tâche de la banque alimentaire. Quand les dates de péremption sont expirées par exemple, ce qui peut arriver, les produits sont transférés directement au Secours Populaire. Rien n'est donc perdu.
Axel, est-ce que tu veux un carton ?
L'ambiance est bonne. Convivial, des bénévoles se sont même rajoutés cette année. Mais attention à ne pas trop tarder, tous les cartons doivent être bouclés vers 15h. Un camion mis en disposition par la ville doit venir les chercher. Poids de la collecte, plus de 2,5 tonnes. C'est moins que l'an dernier, certes, mais c'est toujours aussi important. Alain, présent avec les enfants, puis au tri, conclut et voit dans cette initiative de la banque alimentaire un vrai gage de solidarité.
En ce moment, c'est important d'être solidaire et d'avoir du lien. Du lien avec les autres, de rester en contact avec la réalité des choses, parce que je pense que les temps sont durs.
De la solidarité, un esprit d'entraide, de collaboration et des liens entre différentes générations, poursuit Alain.
Et puis c'est une action, je dirais, multi-régénération, puisque ça commence avec les enfants. Les enfants en ont parlé aux parents, les parents ont mis à disposition des produits de nécessité, que ce soit de l'hygiène, que ce soit des conserves, etc. Donc je pense que on en parle dans les foyers, ça revient à l'école, l'école en fait écho, et puis ensuite y a toute une démarche avec les collèges, etc. Et je pense que c'est important.
Franchement, c'est une superbe initiative. Et c'est génial, je trouve, que les collégiens puissent être autant impliqués et faire autant de choses, même à leur âge. C'est vraiment cool. D'ailleurs, Victor, j'avais une question. Ça fait longtemps que le collège réalise cette initiative ?
Ah, c'est oui. J'ai pas les dates avec moi, puisqu'il y a eu la période Covid entre deux. Mais concrètement, d'après ce que j'ai compris, le collège a élargi son action caritative ces dernières années. Je m'explique, à l'origine, c'était uniquement les élèves de 5e qui prenaient part à cette initiative de la Banque alimentaire, avec leurs cours de pastorale, puis ils ont élargi aux différents niveaux, ce qui veut dire que cette année, il y avait les 6e, les 4e, et tous ont eu le choix ou non d'y participer. C'était vraiment une initiative bénévole et volontaire. Alors, pour donner quelques chiffres, ils étaient 88 en 6e, parents et élèves confondus. C'est Arlette qui gère l'action à Lambersart qui me les a communiqués. Et à l'échelle globale de Lambersart, c'était près de 300 bénévoles qui ont participé à cette édition.
Effectivement, ça fait du monde. Et puis, comme on l'entend dans le reportage, les jeunes ont l'air motivés, donc c'est plutôt cool. Tu dis à la fin de ce reportage que la récolte est de 2,5 tonnes. Est-ce qu'on sait ce que ça représente, pardon ?
Oui, je dis 2,5 tonnes. En réalité, le chiffre n'est pas encore définitif. Il semble qu'une école dispose encore de quelques cartons. Ce chiffre regroupe vraiment toutes les actions lambersartoises, des dons des parents d'élèves, des différents établissements scolaires, comme Dominique Savio, par exemple, qui ont fait des dons sur cette dernière semaine de novembre. Il y a aussi ceux des Lambersartois, via le porte-à-porte, qu'on a vu dans le reportage. Et il y a aussi ceux, finalement, de l'aumônerie. Donc, en fait, il y a vraiment toutes les actions. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que moi, j'ai suivi qu'une seule partie de la collecte. J'ai suivi la mise en carton, donc la fin, mais je n'ai pas suivi vraiment tous les acteurs. Donc, on ne les oublie pas. Et puis, dernier point, le chiffre 2,5 tonnes, a diminué par rapport à l'an dernier. On m'a dit que ça avait été de 3,8 tonnes l'an dernier. La ville avait collecté ce chiffre-là. Alors, est-ce que c'est lié à l'inflation, à la communication ? Je ne sais pas. Et malgré tout, ça n'empêche pas que c'est une très belle mobilisation de la ville de Lambersart.
Ouais, c'est clair. Du coup, merci de nous l'avoir fait découvrir. Chers auditeurs, c'est maintenant le moment pour notre dernière chronique, et pas des moindres. Il s'agit de l'agenda du mois. Victor, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en attendant la prochaine édition de Lambersart en ondes ?
Que voir, que faire ? L'agenda du mois, c'est maintenant sur RPL.
Ouais, vous vous en doutez, dans cet agenda du mois de décembre, je vais beaucoup vous parler de Noël, puisque vous le savez sûrement, le marché de Noël a ouvert ses portes depuis vendredi soir. Il est situé au Colisée et vous pouvez vous y rendre essentiellement en fin de semaine. Ouverture les vendredis de 17 à 20h, le samedi et dimanche de 10h à 19h. Sur place, plus de 70 exposants sont présents pour vous aider à préparer vos fêtes de fin d'année. Décorations, bijoux, papeterie, accessoires pour animaux, bref, l'idéal pour trouver vos cadeaux. Il y aura aussi des animations tout au long du mois. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que le Père Noël sera de passage le dimanche 17 décembre entre 16h et 18h, et un chocolat chaud vous sera distribué et offert de la part de la ville.
Plutôt sympa.
Dans le reste des moments clés, un rendez-vous utile, très utile, un repère café est organisé par nos amis du centre social Lino Ventura. On vous les avait fait découvrir en novembre. Vous pouvez ramener entre de 18, de 1, 2, 3, vous pouvez ramener de 18h à 20h le jeudi 14 décembre vos objets cassés ou en panne au centre Gênes du Toit. Un réparateur bénévole sera sur place pour vous aider. C'est le jeudi 14 décembre et c'est totalement gratuit. Pour les mordus de littérature cette fois-ci, vous pouvez assister à une séance du café littéraire le même jour. Il va donc falloir choisir, car c'est à la même heure, de 18 à 20h. Ça se passe avenue de Dunkerque, au numéro 250 tiers. Vous savez, à tout près du supermarché et de la friterie. Séance consacrée au prix littéraire. Du sport avec le Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui vous propose le mardi 12 décembre à 14h30. Une marche nordique au départ du Colisée. Je ne sais pas si tu connais ce sport-là, Pauline.
Alors pas du tout, je ne suis pas une très grande adepte de marche à la base, mais ça peut être très sympa.
Bon, sache que c'est adapté à tous, en tout cas, prêt de bâton et adhésion obligatoire pour l'événement. Moi, personnellement non plus, j'en ai jamais fait, mais bon, ça peut être l'occasion de se lancer. Un peu de théâtre, puisque le dimanche 17 décembre à 18h à la salle du Pré-Fleury, rue de la Carnoye, vous pouvez assister à un spectacle jeune public des 3 ans avec la représentation du Petit Noël de Léon. Et enfin, petit mot cinéma, on n'a pas eu le temps aujourd'hui de faire cette chronique cinéma, rassurez-vous, elle revient le mois prochain. J'en profite pour vous annoncer que Le Garçon et le Héron est arrivé dans votre salle. Il s'agit d'un film d'animation japonais. La passion de Dodin Bouffon est aussi là. C'est un changement d'ambiance puisque c'est un film romantique, dramatique. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, avec un programme donc axé sur Noël et sur les fêtes de fin d'année.
Ouais, un programme plutôt chargé dans tous les cas. C'est très sympa, ça nous met un peu dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, j'adore. Merci du coup Victor pour toutes tes explications.
RPL Radio.
Merci encore d'avoir écouté cette émission. Encore une fois, on s'est vraiment amusé en vous la concoctant, pardon, et on espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que t'en as pensé, Victor ?
Bon, c'était une émission un peu chaotique parce qu'on l'a réenregistrée. Est-ce qu'on le dit
Ça fait deux fois qu'on l'enregistre, voilà, mais c'est cool.
On n'était peut-être pas hyper optimal, mais en tout cas, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Je m'excuse par avance s'il y a des petits problèmes en technique, des sons qui ne seraient pas au même niveau ou des petites hésitations. Mais voilà, on va apprendre sur le tas en pratiquant. Donc j'espère que vous avez apprécié cette émission du mois de décembre.
Ouais, on est là pour ça au final. Mais en vrai, merci beaucoup pour la régie. C'était très très sympa. Et il va être l'heure... Va être l'heure de se dire au revoir, malheureusement.
Ouais, ça passe trop vite.
Ça passe trop vite, évidemment, même après deux émissions.
Ouais. On voudrait refaire une troisième. Mais bon.
On va repartir. On va se retrouver du coup le mois prochain. On a un peu commencé à travailler sur notre prochaine émission. Et, ouais. On va se dire au revoir.
Ouais, on va se dire au revoir. Rendez-vous en 2024, du coup. On a vraiment des belles choses qui vont se dessiner. On a d'ailleurs déjà commencé à travailler sur la prochaine émission, donc on sera ravis de pouvoir vous la présenter.
Ouais, c'est clair. Bah, passez de bonnes fêtes de fin d'année sur RPL Radio. On vous remercie pour votre écoute et puis à bientôt.
Merci à vous et à bientôt.
Et avant de se quitter, du coup, on part sur une dernière musique. C'est Wonderwhy de Julian Peretta sur RPL Radio. Try infiltrate but never find, just falling slowly. You left me so damn lonely. Try stepping back to when we rhymed, maybe recreate the times you were shy but happy and we were fine and dandy. Here we are again, but backseat love don't move. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, man.